confortablement confinés, lisez ou relisez les plus belles pages de la littérature française. Écoutez dans la voix de grands comédiens Le Rouge et le Noir de Stendhal, Phèdre de Jean Racine, Le Voyage de Jules Verne, Alcool de Guillaume Apollinaire ou encore Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Et révisez ces œuvres commentées avec le précieux concours des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Vous avez moins de 18 ans, cette émission a été pensée pour vous aider à préparer votre oral du baccalauréat de français dans le cadre de l'opération Nation Apprenante. Chaque jour sur France Culture, nous vous donnons à entendre et à comprendre un texte important de notre patrimoine littéraire. Cette première semaine se termine avec L'école des femmes de Molière.
Écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
Et c'est une comédie. Quand Molière écrit et monte pour la première fois L'école des femmes, en 1662, il a 40 ans, c'est pour l'époque un auteur vieillissant. Il a déjà obtenu la reconnaissance du public et de ses pairs. Après avoir été protégé par Monsieur, le frère du roi, qui lui alloue des bourses et une salle pour ses représentations, c'est Louis XIV lui-même qui lui accordera ensuite sa protection. Molière, un talent recherché et redouté. Car ces comédies appuient là où ça fait mal, démangent ou chatouillent en se moquant de nos travers, font rire en mettant en scène le ridicule, la perversité, l'hypocrisie ou la crédulité des hommes. Ces pièces entendent corriger les mœurs par le rire, et L'école des femmes ne fait pas exception à cette règle d'or de la comédie. Molière souligne ce parallèle dans la préface de L'école des femmes quand il écrit « Bien des gens ont frondé d'abord cette comédie, mais les rieurs ont été pour elle, et tout le mal qu'on en a pu dire n'a pu faire qu'elle n'ait eu un succès dont je me contente. » Dans le miroir tendu par l'homme de théâtre, le spectateur voit ses défauts. S'il rit, peut-être qu'il y gagnera en vertu. Nos spécialistes S. Molière de l'éducation nationale précise cependant que l'école des femmes va marquer un tournant dans l'art et la carrière de Molière. Écrite en alexandrin, elle est la première des grandes comédies à oser traiter d'un sujet trivial, c'est l'histoire d'un mari cocu, avec une écriture en vers, parfois soutenue, ce qui élève considérablement le niveau de l'histoire et renforce l'audace de l'auteur. Dès la première, en décembre 1662, le scandale éclate cependant. Texte contre texte, cette controverse publique, dite la querelle de l'école des femmes, va durablement installer Molière dans le paysage littéraire. On le voit comme un auteur subversif, et cette étiquette lui va bien, il ne fera en tout cas rien pour la contredire, avec des œuvres toujours plus osées et provocantes, comme Don Juan en 1665 et Tartuffe en 1669. Venons-en au texte. L'école des femmes met en scène Arnolphe, vieux bourgeois aigri, déçu par les femmes et hanté par la peur d'être cocu. Pour s'assurer de la fidélité de sa future épouse, il la choisit au berceau, l'enferme dans une institution religieuse et la ressort quelques années plus tard pour l'épouser aussitôt. Il entend faire son éducation, lui et seulement lui, la modeler selon son désir pour qu'elle puisse répondre à ses besoins sans avoir le moindre esprit critique ni de point de comparaison. C'est ainsi qu'il l'explique à son amie Chrysalde dès le début de la pièce. « Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. » Au début de la pièce, tout se passe comme prévu. Arnolphe a sorti de son couvent Agnès, qu'il a mitonné, selon son expression, pour ses soins. Les préparatifs du mariage sont en cours. Le spectateur va alors découvrir la jeune ingénue dès la scène 3 de l'acte 1. Oie blanche, sage et soumise, adorable et manipulable à souhait. Le stratagème d'Arnolphe fonctionne à merveille. Mais le tuteur doit s'absenter quelques jours pour affaires. C'est là que Agnès rencontre Horace. Ce jeune voisin l'a aperçu à sa fenêtre et dès le premier regard, ces deux-là se sont aimés. À son retour, Arnolphe, fou de rage, décide de sonder Agnès. Que s'est-il vraiment passé avec ce jeune homme quand il était loin? Pour le savoir, écoutez l'extrait de L'école des femmes qui va suivre, où Michalesco donne la réplique à Michalesco, un seul comédien pour jouer deux personnages, Arnolphe et Agnès, comme dans les conditions du bac. Un enregistrement réalisé pour écouter, réviser, dans la situation que l'on connaît, chacun chez soi, tous confinés.
Arnolphe, la promenade est belle. Agnès, fort belle. Arnolphe, le beau jour. Agnès.
Fort beau.
Arnolphe.
Quelle nouvelle ?
Agnès.
Le petit chat est mort.
Arnolphe. C'est dommage, mais quoi ? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi.
Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie ?
Agnès.
Non.
Arnolphe. Vous ennuyait-il ?
Agnès. Jamais. Je ne m'ennuie.
Arnolphe.
Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci ?
Agnès.
6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi.
Arnolphe ayant un peu rêvé.
Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance et comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venu, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues.
Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement. Agnès.
Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez, vraiment.
Arnolphe.
Quoi ?
C'est la vérité qu'un homme...
Agnès.
Chose sûre. Il n'a presque bougé de chez nous. Je vous jure.
Arnolphe, à part.
Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne.
Agnès.
Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi.
Arnolphe.
Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire.
Agnès.
Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, je refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars un instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ses tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenu, ne voulant point céder et recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins civil que lui.
Arnolphe.
Fort bien.
Agnès.
Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte.
Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé.
Arnolphe à part.
Ah, suppôt de Satan, exécrable damné.
Agnès.
Moi, j'ai blessé quelqu'un ? Fis-je tout étonné ?
Oui,
dit-elle. Blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vit du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause ? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose ? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal. Et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Et mon Dieu, ma surprise est, fis-je, sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde ?
Oui,
fit-elle, vos yeux pour causer le trépas, ma fille ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit, le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande ?
Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine, et du mal qu'ils ont fait être la médecine.
Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici.
Arnolf à part. Ah, sorcière maudite, empoisonneuse dame, puisse l'enfer payer tes charitables trames.
Agnès.
Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir.
Arnolf, bah.
Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente qui, sans guide, a laissé cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pendard, dans ses vœux téméraires un peu plus forts que je, n'aient poussé les affaires.
Agnès, qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble, un petit.
Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit?
Arnolf.
Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites, et comme le jeune homme a passé ses visites.
Agnès.
Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous.
Arnolf.
Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous?
Agnès.
Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler et dont, toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout ému.
Arnolf, à part.
Ô fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses?
Agnès.
Oh, tant. Il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là.
Arnolf.
Ne vous a-t-il point pris,
Agnès, quelque autre chose?
La voyant interdite.
Ouf.
Agnès.
Et il m'a...
Arnolf.
Quoi?
Agnès.
Pris.
Arnolf.
Agnès.
Le...
Arnolf.
Plaît-il?
Agnès.
Je n'ose. Et vous vous fâcherez peut-être contre moi.
Arnolf.
Non.
Agnès.
Si fait.
Arnolf.
Mon Dieu, non.
Agnès.
Jurez donc votre foi.
Arnolf.
Ma foi.
Soit.
Agnès.
Il m'a pris. Vous serez en colère.
Arnolf.
Non.
Agnès.
Si.
Arnolf.
Non, 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 non. Diantre, que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris?
Agnès.
Il...
Arnolf, à part.
Je souffre en damné,
Agnès.
Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre.
Arnolphe, reprenant haleine.
Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baisez les bras.
Agnès.
Comment ? Est-ce qu'on fait d'autre chose ?
Arnolphe. Non pas.
Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes ?
Agnès.
Non. Vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir j'aurais tout accordé.
Arnolphe.
Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chut. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot, ce qui s'est fait, est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Et puis après, sans rire.
Agnès.
Oh, point ! Il me l'a dit plus de 20 fois à moi.
Arnolphe.
Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse.
Agnès.
Un péché, dites-vous ? Et la raison ? De grâce ?
Arnolphe.
La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions le ciel est courroucé.
Agnès.
Courroucé. Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce ? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie on goûte à tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là.
Arnolphe.
Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté et qu'en se mariant, le crime en soit ôté.
Agnès.
N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie ?
Arnolphe. Non.
Agnès. Mariez-moi donc promptement, je vous prie.
Arnolphe.
Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici.
Agnès.
Est-il possible ?
Arnolphe.
Oui. Agnès. Que vous me ferez aise ?
Arnolphe.
Oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Agnès. Vous nous voulez, nous deux ?
Arnolphe.
Rien de plus assuré.
Agnès.
Que, si cela se fait, je vous caresserai.
Arnolphe.
Et la chose sera de ma part réciproque.
Agnès.
Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon ?
Arnolphe.
Oui, vous le pourrez voir.
Agnès.
Nous serons mariés.
Arnolphe.
Oui.
Agnès.
Mais quand ?
Arnolphe.
Dès ce soir.
Agnès, riant.
Dès ce soir ?
Arnolphe.
Dès ce soir. Cela vous fait donc rire ?
Agnès.
Oui.
Arnolphe.
Vous voir bien contente est ce que je désire.
Agnès.
Hélas, que je vous ai grande obligation et qu'avec lui j'aurai de satisfaction.
Arnolphe. Avec qui ?
Agnès.
Avec...
là.
Arnolphe.
Là. Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur, là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que, venant au logis, pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement. Et lui jetant, s'il heurte un grès par la fenêtre, l'obligiez tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès ? Moi, caché dans un coin, de votre procédé, je serai le témoin.
Agnès.
Las, il est si bien fait, c'est...
Arnolphe.
Ah, que de langage.
Agnès.
Je n'aurai pas le cœur.
Arnolphe.
Point de bruit davantage. Montez là-haut.
Agnès.
Mais quoi ? Voulez-vous ?
Arnolphe.
C'est assez. Je suis maître, je parle. Allez, obéissez.
France Culture. Écoutez, révisez les grands textes du patrimoine littéraire.
Après cette lecture de l'École des femmes par Michel Escaut, ce qu'en disent maintenant professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale mobilisés pour vous aider à réviser ce grand classique. Ils en disent que dans cette scène, le dialogue semble très équilibré. Un dialogue d'amour qui tourne cependant au dialogue de sourds, puisque lui parle d'elle, mais elle, pas. Agnès raconte à son futur mari les sentiments qu'elle ressent pour un autre. Plus jeune, plus beau, plus audacieux, plus poétique, plus tout. Et surtout, plus à même de la séduire. Arnolphe réalise à ses dépens qu'il a omis dans son plan un détail essentiel. Si Agnès a été formée pour être idiote, dévote, fervente, il a oublié qu'elle pouvait être sensible, touchée, émue. Sa créature lui échappe. Avec la ruine de ses illusions, il apprend surtout qu'il ne peut soutenir la comparaison. Entre Horace et lui, Agnès a choisi. Si la scène est jubilatoire, elle est aussi étonnamment cruelle. Dans ce nouveau rapport de force, Agnès se révèle être une redoutable adversaire. Arnolphe ne peut par ailleurs lui reprocher la franchise qu'il lui réclame. La candide Agnès avoue tout, sans se méfier de l'oreille à laquelle elle se confie. Très scrupuleuse, presque scolaire, elle raconte chaque détail de sa rencontre avec Horace. Le martyr d'Arnolphe redouble. Et elle informe en même temps le spectateur de cette rencontre à laquelle il n'a pas pu assister. Tout ce qu'elle raconte a eu lieu en effet hors scène, dans un réjouissant contre-champ rétrospectif. La règle classique de l'unité de temps est ainsi respectée, toute l'action aura lieu en 24 heures. Agnès rapporte donc sa conversation avec la vieille femme au discours direct, c'est-à-dire mot à mot par un procédé qui rappelle le théâtre dans le théâtre. Propos mis en scène par les nombreux verbes introducteurs de paroles, dit-elle, dis-je ou encore fige. Agnès prend les mots au sens littéral, ce qui ouvre la porte au quiproquo. Agnès ne distingue pas non plus le sens propre et le sens figuré. Elle ignore le langage imagé de l'amour. Elle ne comprend pas plus l'insistance d'Arnolphe à lui faire préciser le complément du verbe « prendre ». Elle hésite, Arnolphe trépigne. « Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose ?»«
Et il m'a pris, il m'a pris. »«
Qu'est-ce qu'il vous a pris ?» lui demande Arnolphe. « Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné, » répond Agnès. Elle prend enfin Arnolphe à témoin par le jeu des questions rhétoriques, espérant son adhésion, comme à ce moment-là, « Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison ?» Agnès est-elle aussi innocente qu'elle en a l'air ? Certaines confidences permettent d'en douter. Et d'où lui vient une telle habileté à torturer son interlocuteur ? Arnolphe sombre peu à peu, sa douleur nous venge de sa perversité. Alors qu'il avait commencé la scène par un ton badin et se délectait d'une conversation sans danger qui évoquait la météo et la mort du fameux petit chat, il va subitement tomber de haut et voir se confirmer ses soupçons. Il va donc privilégier les apartés pour laisser libre cours à sa colère. Il jure, il peste contre cette sorcière maudite, empoisonneuse d'âme. Quand il s'adresse à Agnès, c'est d'abord avec une forme de contrôle et des antiphrases qui sont l'exact opposé de l'expression de sa pensée. Fort bien, comme s'il validait le récit de sa protégée, avant d'adopter un ton plus autoritaire.
La scène se termine par une série d'ordres qu'il donne à Agnès pour faire taire ses espoirs. La succession de propositions complétives conjonctives l'invite à se plier aux règles formulées clairement. « Je prétends qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce », dit Arnolf. « M'entendez-vous, Agnès ?» Ce ton martial est confirmé par la dernière réplique. « Je suis maître, je parle, allez, obéissez. » Qui est pris, qui croyait prendre? Son interrogatoire s'est donc retourné contre Arnolf. Son pouvoir lui échappe, son autorité naturelle se perd, il recourt alors à la raison du plus fort. Mais Agnès est désormais avertie des projets de son tuteur. C'est la première et la dernière fois qu'elle se confiera à lui. Le premier récit de son amour est aussi le dernier gage de son innocence. Elle aura dorénavant recours à la ruse pour défendre cet amour défendu. Arnolf n'était pas de taille à lutter, semble dire Molière, qui s'incluait dans la critique acerbe du Barbon. Toute précaution est bien inutile contre la nature, car, et c'est sans doute la morale de l'histoire, c'est d'après nature qu'Agnès est instruite et tire ses enseignements. La leçon vaut aussi comme manifeste comique et dramaturgique. Tout l'art de Molière vient de l'inspiration qu'il trouve à observer ses semblables, plus vrais que nature, dans ses pièces. Dans ce texte subtil, qui dépasse son motif originel, Molière aborde enfin le thème de l'amour au sein du mariage et d'autres très contemporains, comme celui du statut de la femme dans le couple, du consentement et de la valeur de la parole donnée. Et maintenant, tous à vos livres, il vous revient de lire l'intégralité de cette pièce de Molière. Le temps d'un confinement, à l'heure de la grande table, écoutez, révisez une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci aujourd'hui à Patrick Claudet qui a supervisé cette programmation, à Renaud Ferreira de Oliveira et Laure Saudi qui l'ont élaborée. Lecture coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Haute-Picon avec Bastien Varigaud à la technique. Mise en onde, Midia Portis-Guérin. Merci pour leur aide à Laura Dutèche-Pérez et Henri Leblanc. Toutes les infos et des liens vers d'autres émissions de France Culture sont à retrouver sur la page de Écouter, Réviser, une émission à écouter du lundi au vendredi à midi sur l'antenne de France Culture ou à réécouter et podcaster sur franceculture.fr. Cette première semaine est déjà en ligne, Phèdre de Racine, Les Fables de La Fontaine, La Princesse de Clèves et Contemplation de Victor Hugo et dans quelques minutes ce dernier numéro d'Écouter, Réviser, L'École des Femmes. Très bon week-end à tous sur France Culture. À lundi!